C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, vendredi, rapport des commissaires. Le commissaire Luc Ferrandaise s'exprime en premier.
Bon, en Israël, on se demande comment 7 travailleurs humanitaires ont pu être tués par des missiles qui ont visé précisément les 3 véhicules. La question est posée. Et il y a un réserviste, un psychologue dans la vie de tous les jours, il a 35 ans, qui a commencé à ouvrir les livres un peu. Puis qui a commencé à dire, c'est incroyable comment cette guerre est menée. En fait, dans son unité, il n'arrive plus à donner des ordres aux réservistes, aux soldats, qui font dans une sorte de volonté de vengeance, très élaborée, très systématique, font à peu près ce qu'ils veulent. Alors, ils témoignent de soldats qui jettent des grenades dans des maisons habitées, en sachant qu'il y a juste une famille à cet endroit-là, ou qui mettent le feu à des maisons habitées. Ils disent, j'en arrive plus à garder le contrôle. On n'arrive plus à le faire.
D'ailleurs, ce matin, Israël a reconnu les erreurs de commandement. Il y a eu... on n'a pas respecté les procédures normales.
Bon, c'est ça. Alors, on peut pas leur en vouloir d'être dans un état d'esprit de vengeance. On peut pas leur en vouloir d'être dans un état... Mais là, on admet qu'il y a une perte de contrôle des cadres de la ligne hiérarchique. Sur la question... L'Angleterre, 600 juristes anglais ont décidé d'envoyer une lettre à Sunak, le premier ministre, pour demander l'arrêt de livraison d'armes à Israël dans ces conditions-là, dont plusieurs juges, un de la Cour suprême, plusieurs des cours d'appel et des cours supérieures, 600 juristes. En Angleterre, qui est pourtant très, très pro-israélien d'habitude. L'aéroport de Montréal, tout le monde se dit, alors, il faut augmenter l'accès, il faut augmenter le nombre de... Il y en a autre chose, ça, il faut augmenter les bureaux, fait que là, on va avoir une nouvelle jetée, on va augmenter les débarcadères, 2 débarcadères à 4 voies. Ah ouais, amène-en du monde, amène-en. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé qu'on est passé de 12 millions de passagers en 2010 à une prévision de 28 millions en 2028, 25 millions en 2028. Y'a-tu quelqu'un qui pose la question, comment ça se fait qu'on est passé de 12 à 25? Dans tout le débat, y a-tu une personne qui a posé la question?
On a le goût de voyager après la pandémie, tu comprends?
Ben oui, mais ben la pandémie, elle dos large en 6 mois.
Il y a 5 ans, Luc, on était à 17 millions à l'aéroport de Montréal. Alors, tu vois, en 5 ans, ça a augmenté. Là, on était à quoi aujourd'hui? 21 millions?
Aujourd'hui, 21. En 28, ça. 25 millions. Puis la courbe, c'est une ligne droite. Elle va continuer d'augmenter. Il y a autant d'avions qui sont commandés et en construction que d'avions qui sont dans le ciel. Pour te dire, y a-tu quelqu'un qui trouve qu'il y a pas assez de touristes à Paris?
C'est quoi, c'est pourquoi, quoi? Ça choque, pourquoi ça te choque? Parce que
ben, les gaz à effet de serre, Nathalie! Oui, il n'y a personne qui a posé la question.
T'as voyagé l'été passé, toi?
Oui, une fois à 8 ans, oui, c'est vrai. Okay. Attends, c'est quoi les raisons? Posons-nous la question de ce qui s'est passé pour savoir ce qui va se passer. Enrichissement de la classe moyenne, diminution des heures travaillées, les gens ont des semaines de congé à tout bout de champ. Je sais, parce qu'il y a encore une autre semaine de relâche en ce moment dans plusieurs écoles.
Calme-toi, là!
Immigration, travail temporaire. Personne ne se pose la question. Il y a 500 000 travailleurs qui sont ici, ils voyagent au moins 2 fois par année, et ça, c'est s'ils ne vont pas voir leur famille ou s'ils ne reçoivent pas leur famille. Les vols directs pour le Maroc, multiplication par 1000, là, je veux dire Royal Air Maroc, même Air Transat en fait 2 par semaine, Air Canada et compagnie. Augmentation du fret aérien, tu te commandes une petite sacoche sur Internet, c'est 20% d'augmentation du fret aérien par année. Fait que quand on se dit, ben, on va construire des débarcadères, mais construis-en, mon homme, parce qu'il va falloir que tu en construises en 6 Monac dans les prochaines années, 2, puis 4, puis 6, puis 8. Mais posez-vous pas la question de savoir comment, est-ce que c'est une bonne affaire, puis est-ce que ça devrait continuer?
Je vais t'envoyer un article. Ouais, c'est ça. Merci, Luc. Mais je vais t'envoyer, Luc, un article publié par Reuters au cours des derniers jours qui confirme que les plus 80% des émissions de GES appartiennent à 57 grands pollueurs. Je te dis pas, là, que c'est pas polluant, là, prendre l'avion. Je te dis pas ça du tout, là.
Surtout pas l'avion électrique. L'avion électrique, ça pollue pas, ça.
Non, mais c'est parce que des fois, il faut remettre les choses dans leur contexte. Et moi, je salue la décision du nouveau PDG de l'aéroport de Montréal de continuer de moderniser les installations parce que il faut que tu voyages dans le monde.
Lui, c'est sa job, je le comprends.
Oui,
je le
félicite
d'ailleurs, bravo. C'est sa job. Mais nous autres, il faut qu'on se pose des questions quand même.
Oui, d'accord.
Poursuivez, monsieur le commissaire.
Rien n'empêche de construire des véhicules électriques à 15 000 $ et la Chine en fait la démonstration avec un véhicule électrique à 13 000 $. Quand je travaillais là-dedans il y a longtemps, on disait, hey, un jour, les véhicules électriques, ça va coûter 5 000 $. Pourquoi? Ben, pense-y. Il n'y a pas d'essence, donc il n'y a pas de réservoir d'essence. Il n'y a pas d'explosion, donc il n'y a pas de pot catalytique. Il n'y a pas de pot d'échappement. Il n'y a pas de refroidissement à l'huile. Il n'y a pas de refroidissement à l'eau. À la limite, tu n'es pas obligé de mettre des freins parce que tu peux avoir un freinage par compression. Donc, Un véhicule électrique, en théorie, ça devrait coûter très, très peu cher. Pourquoi ça coûte si cher? La batterie, ça coûte cher, ça faut le dire. Alors, pourquoi ça coûte si cher? Parce qu'on les a transformés en salon. Parce que les entreprises ont dit, regarde ça, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Comment est-ce qu'on va faire de l'argent, nous autres? Parce que, tu sais, comme ça, d'ailleurs, le moteur couture, vous rappelez-vous du moteur couture? Et Hydro-Québec avait essayé par tous les moyens de vendre cette technologie à travers le monde.
Le moteur roux, c'est
ça? Le moteur roux, oui. Ouais. Pourquoi il l'avait pas vendu? Parce que c'était tellement simple. Moi, je l'ai vu dans les garages d'Hydro-Québec, là. T'ouvrais le hood, et puis il y avait rien. Il y avait un trou, parce qu'il avait pris des vieilles Chrysler, et puis il avait transformé la vieille Chrysler. Là où il y avait le moteur, il restait plus rien. Alors, pourquoi ça coûte cher? Parce que les entreprises se sont dit, on va perdre notre argent, on va perdre notre chemise. Se sont mis à produire des véhicules à 60, 60 5 000, etc. La Chine, avec BID, commence à dire, on va essayer l'autre porte. On va essayer de voir si on prenne en vente des pas chers. Là, ils sont rendus à 5 millions. Ils ont dépassé le Japon. Attention, la Chine. Mohamed Hage, le fondateur des fermes Loufa. J'ai reçu à l'émission, puis tu sais, on parle beaucoup des solutions pour réduire la facture d'épicerie. On a beaucoup parlé de Dollarama, les discounts, les Super C, etc. Il faudrait penser aussi aux fermes Loufa. Les fermes Loufa, ils avaient une serre sur trois, sont rendus à 5. Et puis, on avait l'idée que quand tu commandes un panier des fermes Loufa, tu vas avoir, ou d'un agriculteur, tu vas avoir 5 navets, puis le temps des navets, puis après ça, tu vas avoir 1 milliard d'asperges, le temps des asperges. Tout ça a changé. Maintenant, oui, c'est vrai, tu sais.
Tout c'est ça bon a changé.
Mais moi, je ne savais même pas. Moi, je pensais que c'était encore comme ça. J'avais très, très peur de recevoir 5 navets.
Non, tu peux acheter bien plein de choses.
Oui, c'est ça. En fait, ils ont 70 % de leurs produits qui sont achetés à d'autres producteurs locaux. Oui. Et puis, ils font des variations. Et là, maintenant, moins en moins, leurs serres sont chauffées au quart des serres, les premières serres. Donc, les dernières serres consomment 75 % moins d'énergie que les premières. Le panier diversifié, la livraison est à la maison. Intelligence artificielle pour te proposer des projets en fonction des produits, en fonction de ce que tu as commandé dans les semaines précédentes. Donc, beaucoup, beaucoup d'évolution. Et ils sont capables de battre le prix de l'épicerie.
Alors, et ça, c'est seulement pour Montréal, les livraisons des paniers Loufa?
Je pense que, en tout cas, la région peut-être, là, mais...
La grande région de Montréal.
Mais en tout cas, quel innovateur, hein, Mohamed Hage, et quelle entreprise, et puis une fierté pour Montréal. Et je pense que ça... D'ailleurs, il commence à être copié un peu partout à travers l'Amérique du Nord, et il en est bien fier. Avez-vous entendu parler de votre âge biologique?
Trop souvent.
Oui. Donc, Éric Simard, docteur en biologie, fondateur de Idun Technologies, qui nous apprend que notre âge biologique...
Ouais.
Est vraiment différent de notre âge chronologique.
Sûr.
Combien d'années vous pensez de différence entre le maximum là, qu'il peut avoir entre votre âge biologique et l'âge chronologique?
Quelqu'un, en plus ou en moins?
Dans les deux sens. Okay.
Moi, je dis 5 ans.
40 ans.
J'allais dire 30, mais... Ouais.
40 ans entre une personne très en forme de 65 ans puis une personne très en forme de 95 ans, mettons. Pour l'instant, c'est 30 ans. Puis, ils visent 40 ans parce qu'ils disent... Ils ont mesuré 30 ans sur la moyenne des individus. Si tu regardes dans les individus les plus performants, tu peux atteindre 40 ans. Et donc, avant, c'était très, très difficile de savoir ton âge biologique. Et eux ont inventé une molécule qui est dans le sang. Donc, avec une prise de sang, ils sont capables de le savoir. Une innovation extraordinaire qui va faire le tour de la planète.
Merci beaucoup.
On comprend que l'âge biologique, si tu es en forme, est moindre que ton âge chronologique. C'est ça.
Beaucoup moins. Oui. Beaucoup moins.
Luc a à peu près 2-3 ans, pas plus. On fait une pause. On revient après avec le rapport de Nathalie.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, au tour de Nathalie de nous faire le rapport de la semaine.
Oui, bravo au conseil municipal des îles de la Madeleine. Une histoire qui fait grand bruit, l'obligation maintenant, lorsque vous irez aux îles de la Madeleine, de payer une contribution de 30 $ si vous êtes un touriste. Et je trouve cette idée absolument extraordinaire. Et cet argent amassé va permettre de financer des infrastructures qui, à leur tour, vont permettre d'améliorer la vie des touristes sur l'île. Et je trouve ça très courageux comme décision. Ça fait un an et demi que le conseil municipal travaille sur cette possibilité. Dans des milieux insulaires aussi fragiles que les îles de la Madeleine, il y a un prix lorsqu'on décide de faire du tourisme sur un territoire comme celui-là. Et ce prix, ça va représenter 30 $ par touriste, 100 $ maximum par famille. Et ceux et celles qui auraient tendance à rouspéter, ben je vous dis, si vous avez le moyen d'aller aux îles de la Madeleine, vous avez le moyen de payer 30 $ pour fouler le sol des îles de la Madeleine. D'ailleurs, est-ce que vous êtes déjà allé aux îles, Paul et Luc?
Oui.
Oui, c'est beau, hein? C'est magnifique. Tellement beau. Alors, bravo au conseil municipal pour cette décision. Faire de la politique pour faire une différence, c'est ce qu'aura réussi à faire le ministre Mark Miller avec sa décision de ne pas expulser Déborah et sa famille. On en a parlé ensemble et bravo une fois de plus à la presse qui a traité de cette affaire. Déborah et son conjoint, issu du Nigeria, tous les deux préposés aux bénéficiaires auprès de personnes lourdement handicapées. 3 enfants, dont 2 nés ici, finalement ne seront pas expulsés. Il était minuit moyenne lorsqu'on en a parlé ensemble, lorsque la presse aussi a publié son article. Et je dis faire la politique pour faire une différence, ben soit c'est un exemple très, très concret. C'est sûr que le ministre de l'Immigration à Ottawa, et à Québec également, dans certains dossiers, ont un pouvoir arbitraire. Ils peuvent renverser certaines décisions rendues par certaines instances. Dans ce cas-ci, Mark Miller a pris la bonne décision. Luc, t'es peut-être pas d'accord avec ça, mais
moi, je reconnais, Nathalie, ton immense humanisme, et je sais que c'est pas juste au micro, là. Nathalie, en arrière du micro, tout le temps très, très préoccupée par le sort des personnes. Moi, j'ai tout le temps pensé qu'en politique, tu gères pas des petits nombres, tu gères des grands nombres. Il faut que tu prennes des décisions pour des grands nombres.
Et c'est intéressant. Moi, je dis, mon cher Luc, en politique, il n'y a pas de petits dossiers.
Ah, c'est drôle, hein?
On a une vue très opposée de la chose. On dit souvent, les sommets, qu'est-ce que ça donne? Ah ben là, moi, depuis le sommet du 8 février dernier, à Ottawa, sur la lutte pour lutter contre les véhicules, les vols de voitures, je me disais, ben jamais on a vu des résultats aussi spectaculaires. Écoutez, sommet le 8 février, on est hier, pas plus tard qu'hier, les différents corps de police impliqués dans la lutte aux véhicules volés ont confirmé que près de 600 véhicules ont été retrouvés au port de Montréal depuis décembre dernier. Et quand tu veux, tu peux, hein? SPVM, police provinciale de l'Ontario, il n'y a pas de rapport entre quoi et quoi? Entre le sommet et ça, ben voyons.
Il n'y a pas de rapport entre ça et la consommation de croissants. Jamais je croirais.
Oui, ben écoute, Luc, je peux pas faire autrement que d'y voir un lien. On est très cynique à l'endroit des gouvernements qui organisent des sommets. On se dit, ils font ça pour gagner du temps, puis ils font ça, c'est des opérations de relations publiques. Mais dans ce cas-ci, Luc, explique-moi, avant le sommet, c'était impossible de retracer les véhicules volés au port de Montréal. Écoute, c'était...
Mais moi, je ne crois pas qu'après un sommet, tu es soudainement capable de retracer des véhicules. Moi, ce que je pense, c'est qu'un événement comme ça, ça met une pression. D'abord, il y a eu un sommet parce qu'il y avait tellement de vols, puis les combien d'assurance, ça leur coûtait cher, puis le monde tatané. Tu sais, quand un gars se fait voler 2-3 fois, ça se peut que... Ça met une pression. Et là, tu fais un certain spectacle public, puis t'envoies un message en disant, ben là, on va vous donner des moyens, trouvez-moi les voleurs. Mais tu sais, je pense que t'aurais pas eu de sommet, puis ça aurait pu se faire pareil.
Mais moi, je pense qu'il y a un boss qui a dit à un employé, hey, tu vas-tu faire ta job? Mais l'autre, il y avait un croissant dans la bouche, je pouvais pas répondre.
Dans vos sommets.
Non, mais peu importe, les amis, là, peu importe, il y a un résultat qui est là quand même. Le sommet, il y a des voitures qui sont retrouvées. Alors là, le grand défi, c'est de conserver cette cadence pour instituer une façon de travailler entre les 4 grands corps de police pour qu'on puisse...
Oui, c'est ta raison.
Oui, pour qu'on puisse vraiment, une fois pour toutes, trouver il est où le problème. Là, j'ai une petite exclusivité pour vous ce matin. Un gestionnaire, c'est bien, mais 3, c'est mieux. J'ai reçu une copie d'une correspondance interne envoyée le 28 mars dernier à tous les employés de la STM. La correspondance en question fait état de la cessation par la STM de commander des contenants de 18 litres en plastique d'eau de source. Hein. La STM ne commandera plus de d'immenses bidons d'eau parce que c'est polluant, etc. C'est pas tant ça qui est intéressant dans la missive envoyée que le nombre d'expéditeurs qui ont envoyé la missive. Quand je vous dis un gestionnaire c'est bien, mais 3 c'est mieux, croyez-le ou non, il y a 3 expéditeurs qui ont signé cette correspondance interne. Le directeur principal stratégie entretien et électrification. Le directeur principal planification soutien à la livraison du service et parcours client. Et le directeur principal livraison du service expérience client. Vous aurez remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre le directeur principal qui porte le titre suivant, planification, soutien à la livraison du service et parcours client, et l'autre directeur qui porte le titre suivant, livraison du service et expérience client. Je n'en reviens pas. Lorsque la ministre des Transports dit « Ah, il y a du ménage à faire dans les sociétés de transport », on en a un brillant exemple ce matin, n'est-ce pas? Parce que 3 directeurs principaux qui signent une correspondance interne pour dire « On n'achètera plus de bidons ».
J'aurais une question, par exemple, à te poser.
Ouais.
Le 4e était où?
J'adore. Non, non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Imaginez.
Comment ça se fait que j'ai pas été copié là-dessus, là?
Comment ça se fait que t'as pas été copié là-dessus?
Ah, ben, il y a déjà un meeting pour en décider, hein, Nathalie?
Non, non, mais là, les amis, je suis très gentille parce que je pourrais dévoiler le nom des expéditeurs en question. Je ne le ferai pas.
Oui.
Non, non. Ben non, mais certains vont se reconnaître. Ils vont se reconnaître, on s'entend. Mais ça, ben c'est ça. Imaginez le temps et l'énergie perdus par ces trois directeurs principaux, probablement payés à grand prix, pour déterminer le contenu de la lettre, premièrement. On s'entend-tu sur le point virgule, sur le... Comprenez-vous tout ça?
Oui, enfin, absolument, bref. Absolument. Le contenu, la validation, la première version, deuxième version, troisième version, le meeting...
On écoute un gars d'expérience.
Et je veux terminer très rapidement en parlant du palmarès, l'actualité des personnes les plus influentes. Ben, Paul, tout d'abord, félicitations. Pour la première place des personnes et des personnalités issues des médias, le premier rang. Personne n'est surpris, mais honnêtement, ça fait extrêmement plaisir. Oui!
C'est un peu exagéré tant qu'à moi.
Non, Paul.
Je pense que Pierre-Carl Péladeau influence pas mal plus d'affaires que moi, là, mais.
Non, mais écoute, avec toutes tes années de carrière, oublie ça, là.
Toi, chaque jour, tu parles de 18 sujets. Lui, souvent, il parle 18 fois du même sujet.
Puis bravo également à Patrick Lagacé, Pierre-Yves McSween, Jonathan Trudeau, qui sont également sur le palmarès. Et notre chère présidente Caroline Paquet. J'ai remarqué quelques petites choses. Les trois secteurs les plus influents dans notre société, la politique, la culture et les médias, et le groupe d'âge le plus influent, les cinquantenaires. Et il y a un grand absent, les amis, dans ce palmarès. Et qui est-il?
Normand Marino.
Normand Marino, il n'est pas dans le palmarès.
Arrêtez ça, on va avoir des plaintes. Le CRTC va nous débrancher.
Non, c'est les femmes.
Oui, merci.
C'est 23.